Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cet après-midi réflexion rencontre organisée par les Semaines sociales de France avec leurs partenaires RCF et la Procure qui tient un stand au fond de cette salle où vous pourrez y retrouver des lectures complémentaires. Je suis Alban Sartori, je suis vice-président des Semaines sociales de France et je serai très heureux de vous accompagner au cours de cet après-midi. Alors les Semaines sociales de France, notre présidente Isabelle de Gomain vous en dira un mot. Nous sommes des chrétiens engagés au service du bien commun depuis l'association de laïcs, depuis 1904, année de notre création. Vous trouverez toutes les informations du reste sur l'association à la table qui vous a accueilli. Nous avons souhaité que cet après-midi soit ouverte à tous. Nous vous inviterons pour ceux qui le peuvent à participer aux frais si vous le souhaitez, pour couvrir quelques-uns des frais que nous avons avancés pour cet après-midi. Mais encore une fois, le plus important est que vous soyez là aujourd'hui et nombreux. Alors, avant de vous présenter le déroulé un peu de cet après-midi, je vais laisser notre présidente Isabelle de Gomain vous dire quelques mots d'introduction.
Merci, merci Alban, merci à tous d'être si nombreux. On est impressionnés par votre présence. Et un samedi après-midi, prendre un samedi après-midi pour réfléchir à une question quand même compliquée, délicate et pas forcément toujours très drôle, eh ben c'est bien. Alors effectivement, comme disait Alban, les Semaines sociales de France sont une association de chrétiens engagés dans la société pour le bien commun. Alors il nous a semblé que ce débat sur la fin de vie, c'était justement un débat qui concernait à la fois nos propres choix individuels, intimes, mais aussi ça concerne des choix de toute la société, des choix économiques, des choix éthiques, des choix familiaux. Et c'est pour ça qu'on a voulu en débattre ensemble. Alors cette rencontre, c'est une rencontre que l'on voudrait, au-delà des polémiques ou de tout le bruit médiatique qu'on peut entendre autour de la fin de vie, c'est une rencontre qui devrait nous permettre à chacun de prendre du champ, d'avoir un peu une vision peut-être plus large avec des experts, des soignants, des philosophes, des politiques sur ce problème de la fin de vie et qui devrait aussi permettre à différentes sensibilités de s'exprimer. Je crois qu'il n'y a pas, de position qui ne soit pas légitime. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on apprenne à entendre nos propres différences, les différentes sensibilités qui peuvent s'exprimer sur ce problème de la fin de vie. Et chacune de ces positions mérite finalement notre respect. Alors l'idée de cet après-midi, qui est une après-midi très studieuse, je vous préviens, c'est d'éclairer nos consciences comme personnes et puis aussi comme citoyens, puisque c'est un débat qui va ensuite avoir lieu aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est aussi pour nous, Semaines sociales, une manière d'enrichir notre propre réflexion à nous et ensuite de nous aider à porter éventuellement une parole publique à l'extérieur, de prendre une position sur ce problème de la fin de vie. Et c'est pour ça que toutes vos contributions, tout ce que vous allez pouvoir nous poser comme questions, tout ce que vous allez pouvoir faire comme remarques, ça va permettre de nous enrichir, nous, et ensuite, effectivement, de nous faire une matière à travailler pour ensuite prendre position à partir de toutes vos contributions. Donc on a préparé un texte sur lequel nous avons discuté collectivement au sein des Semaines sociales et que nous vous inviterons à réfléchir, à discuter et à enrichir. Voilà, je ne serai pas plus longue, je voudrais remercier donc vous tous et puis surtout les intervenants parce que certains viennent de très loin, certaines aussi, et qui ont, malgré les grèves de train, d'avion, enfin, ça a été quand même très très compliqué. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on pourrait faire cet après-midi. Donc merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici et d'avoir accepté de venir nous éclairer dans ce débat.
Merci Isabelle. On va commencer donc notre première séquence avant de présenter nos intervenants. Petite information pratique sur l'organisation du débat. Vous serez invité, bien entendu, à poser des questions. Mais à des fins d'efficacité, elles seront collectées, compilées et restituées fidèlement par Dominique Quignot, qui est ici. Dominique est membre du conseil d'administration des Semaines sociales. C'est notre ancienne présidente. Elle est membre également du conseil consultatif national d'éthique. Et voilà, c'est elle qui restituera vos questions à nos différents intervenants. Alors, cette première séquence, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Didier Sicard. Didier Sicard est médecin, professeur de médecine. Il a été président du Conseil consultatif national d'éthique de 1999 à 2008. Il en est encore actuellement le président d'honneur. J'ajoute qu'il a longtemps accompagné les travaux du groupe Santé et Bioéthique des Semaines Sociales de France. Et je le remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Et puis Pierre-Henri Duet, son voisin de gauche. Pierre-Henri est ingénieur agronome. Il fut membre du Comité consultatif national d'éthique jusqu'en 2022. Et il est également membre du conseil d'administration des Semaines Sociales de France. Messieurs, je vous laisse la parole pour cette première séquence dédiée à revenir sur l'histoire d'un débat. Et je relèverai la main si vous prenez un petit peu trop de temps.
Tu veux que je commence alors ? Merci pour cet accueil. Une dizaine de minutes d'intervention. Sur ce sujet, qui est un sujet international, avec l'étonnement que j'ai de la place excessive, à mon avis, du Benelux dans la discussion, au détriment de pays comme le Royaume-Uni, qui depuis 40 ans nous donne un exemple d'accompagnement de soins palliatifs d'une qualité inégalable. Le Royaume-Uni est absent de toutes les interventions médiatiques. Bref historique, jusque dans les années 60-70, la médecine s'autorisait à des euthanasies clandestines dans l'indifférence générale. Arrivent les années 80, simultanément trois événements. Le sida, des hommes jeunes qui meurent dans des agonies qui n'en finissent pas et qui revendiquent éventuellement d'en finir. Et la médecine, qui jusque-là le faisait de façon un peu désinvolte, se réfugie dans une interdiction qui est liée d'une part à l'apparition des soins palliatifs venant du monde anglo-saxon et d'autre part d'une apparition d'une réflexion éthique qui commence à germer et à intervenir dans la réflexion médicale. Ce qui fait que dans les années 85-90, naît l'ADMD comme une revendication apparemment légitime de pouvoir demander la mort. Et cette revendication est devenue une militance encouragée essentiellement par les pays du Benelux. Cette situation, en 2023, donc avec une loi en cours de rédaction, illustre cet affrontement traditionnel, lieu commun, entre l'autonomie, entre guillemets, et puis la solidarité. Mais qu'est-ce que c'est que la solidarité ? La solidarité, ce n'est pas la solidarité entre nous, entre personnes en bonne santé, ou même âgées, qui ne sont pas en situation de vulnérabilité. La solidarité, c'est d'aider les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus désespérés. Or, quelle est la situation de nous tous ? Quand je vais mourir, quand vous allez mourir, nous allons être dans une situation d'extraordinaire fragilité, de vulnérabilité. Le monde disparaît et ce que l'on demande à la société, c'est de ne pas être indifférente, d'être là, d'être présente, de soulager la douleur. Et cette incapacité à percevoir entre l'autonomie et la solidarité, la vulnérabilité qui est une exigence pour la solidarité, et que la revendication permanente de la liberté a quelque chose d'assez étrange. C'est un peu comme si un prisonnier entravé, on lui disait, mais au fond, revendiquez votre liberté, il dira, mais désentravez-moi. Et le mourant dira, mais redonnez-moi la vie, redonnez-moi la guérison. Mais ma liberté, à ce moment-là, ma liberté, c'est de pouvoir demander de l'aide. Ma liberté, c'est de pouvoir dire, je ne veux pas être seul, je ne veux pas souffrir. Voilà la vraie liberté. La liberté, dans ma vie professionnelle, de gens qui demandent à mourir, ça existe. Mais c'est extrêmement rare. C'est pas dans cette situation, au fond, comme les nourrissons dans la vie qui demandent à être aidés pendant les premières heures de leur naissance, si on ne les aide pas, ils vont mourir. Au fond, il y a deux périodes dans la vie, c'est la naissance et la mort, où l'être humain, il est seul. Il est désespérément seul. Or, qu'est-ce que c'est que la solidarité? La solidarité, c'est que devant la solitude, comme devant la naissance, l'être humain ne soit pas abandonné. Et dans cette situation, je trouve que la société a fini par considérer que la mort, c'est notre destin commun, il faut bien mourir, et qu'il y a une sorte d'indifférence à la mort des autres. Ça me frappe. Je reviens d'un pays d'Extrême-Orient où le moindre conducteur de pousse-pousse, dans la plus désespérance, lorsqu'il va mourir, va être accompagné par des centaines de personnes. En France, celui qui est abandonné du ciel et de la terre, le clochard, il va mourir tout seul. Et la solitude, au fond, témoigne de ce manque, témoigne de notre indifférence. Ceux qui meurent ne manquent plus. Or, autrefois, et dans les pays les plus moins développés, celui qui meurt, celle qui meurt, elle manque à tout le monde, elle manque à la société. Et cette vision d'une liberté qui est une fiction méconnaît le fait qu'un être humain dans cette situation n'a pas ce sentiment exacerbé que nous avons aujourd'hui, d'une espèce de sentiment qu'on ne veut pas mourir dans les situations épouvantables, la mort comme indigne. Mais toute mort, toutes nos morts sont indignes. Dans les derniers moments, on a des gestes, on perd ses selles, on perd ses urines, ça peut être quelque chose d'indigne, mais on est totalement dans une situation de vulnérabilité, on demande à être aidé, pas forcément à mourir, peut-être aussi à mourir, mais aussi à ne pas être abandonné. Et dans ce domaine, j'ai deux réflexions sur la médecine et les soins palliatifs. La médecine, elle a failli. Et j'ai passé mon temps à dire que la médecine a abandonné la mort comme un échec, comme si la médecine était contrainte d'éterniser la vie. Alors que la mort fait partie de la vie, enfin, c'est un lieu commun, mais que la médecine considère que ces moments ultimes de l'existence, à partir du moment où ils ne sont pas accessibles à des chimiothérapies, à des radiothérapies et de la chirurgie, ça perd du temps, ça coûte de l'argent, et puis ça prend des places dans les hôpitaux. N'encombrons pas les hôpitaux avec des mourants. Et ce sentiment donc de délaissement de la mort par la médecine a abouti à les renvoyer vers les soins palliatifs. C'est très bien les soins palliatifs, il n'y a pas mieux. Ce sont des gens exceptionnels, c'est les meilleurs médecins que j'ai rencontrés. Mais ils ont trois inconvénients. Le premier, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter tout le monde, donc ils trient. Et donc, à partir du moment où il y a un tri au moment de la fin de vie, c'est insupportable. Et puis, il y a des départements où il y a zéro soins palliatifs. Et enfin, les soins palliatifs finissent par être enfermés dans une sorte d'idée qu'ils ne donneront jamais la mort. Or, la médecine a passé son temps depuis toujours, à aider à mourir. Quand quelqu'un agonise de façon épouvantable, la médecine, elle soulage, elle aide à mourir de quelque façon que ce soit. Mais elle le fait par une sorte d'empathie pour la personne et non pas pour se débarrasser du malade. Au fond, dans cette loi qui va apparaître, je pense qu'elle me paraît avoir comme danger l'indifférence. Le sentiment qu'un être mourant est aussi libre qu'un être vivant comme nous le sommes aujourd'hui dans cette salle. Et elle finit par donner le sentiment que l'euthanasie, c'est une liberté, une ultime liberté, c'est une revendication qu'il faut faire comme si c'était, au fond, une revendication de gens bien portants qui ignorent comment ils vont être. Et combien j'ai vu de personnes qui étaient adhérents à des associations militantes et qui, au moment de mourir, disaient « Mais fichez-moi le camp, je ne veux plus vous voir. » Parce qu'ils avaient changé, parce qu'ils étaient désespérés, et comme le noyé, il y a le sentiment qu'avoir quelqu'un qui vous soulage, qui vous parle, qui vous tend la main, est quelquefois plus important. Mais il y a effectivement un certain nombre de situations, pas universalisables, où la charité chrétienne, c'est d'aider à mourir. Des maladies neurodégénératives, etc. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'une loi qui crée une sorte d'indifférence sociétale à nous-mêmes, à nous citoyens qui, dans ce moment, finiront par penser que l'euthanasie finit par être la seule issue de la solidarité comme une manifestation d'indifférence sociale. Et dans ce domaine, moi je trouve que depuis 50 ans, un certain nombre de philosophes avaient réfléchi sur le fait que ce moment de la fin de vie doit rester un dialogue singulier entre un malade et un médecin. Pouvoir dire à son médecin, droit dans les yeux, j'en ai assez, je veux mourir, et que le médecin puisse y répondre sans pouvoir être pénalisé. Peut-être qu'on aurait pu trouver, et je pense qu'on peut encore trouver, des moyens de, comme nous l'avions donné dans un avis éthique des années 2000, une possibilité de souder la société dans un sentiment de se regrouper autour de nous-mêmes quand nous allons mourir, de sentiment de considérer que la vraie liberté, c'est de pouvoir être accompagné, pas forcément de demander la mort. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Sicard. Je vous rappelle, avant de donner la parole à Pierre-Henri, qu'il y a des bénévoles qui doivent circuler avec des feuilles de papier, donc n'attendez pas la toute fin du débat pour faire remonter vos questions à Dominique Quignot. Pierre-Henri.
10 minutes. Ok. Bonjour à tous. Effectivement, Didier vient de rappeler un certain nombre de généralités, mais importantes, sur la fin de vie et sur le comportement d'une société qui devrait être attendue dans ce cadre-là. Moi, j'ai été surpris, peut-être comme vous, à la mi-février 2023, donc il y a quelques semaines, de deux informations importantes. La première émanant de la Convention citoyenne qui se réunit jusque début avril et qui a exprimé un vote positif sur l'évolution de la loi concernant l'accompagnement des patients en fin de vie, un vote assez majoritaire. Et puis dans le même temps, l'expression de 13 associations de professionnels de santé, en particulier les soins palliatifs, qui représentent quand même de l'ordre de 800 000 personnes, de 800 000 professionnels de santé, qui avaient délivré un avis complètement différent. Et je cite en particulier un élément de cette communication, des gens qui sont au contact des personnes concernées, en quelque sorte. Il y aurait une incompréhension quant à une légalisation d'une forme de mort médicalement administrée si le législateur transforme fondamentalement la définition du soin et décide de mettre fin à l'éthique collective. Et ça fait écho à ce que vient de dire Didier Sicard. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question importante qui est au cœur de nos réflexions, mais avec des avis complètement différents, opposés. Et je crois que l'ambition d'un débat national, d'une communication nationale, c'est aussi de surmonter ces divergences. Et pourtant, dans ce domaine, le corpus législatif est important. Didier Sicard n'a pas complètement développé cet aspect-là, mais depuis 1999, loi créant les soins palliatifs, et en particulier dans le fil conducteur de ce qui avait été fait dans les années 70 en Angleterre et repris en France dans les années 80-90. Il y a la loi 2002, il y a la loi 2005 Leonetti et la loi 2016 avec Alain Claës ici présent et Jean Leonetti. Un corpus législatif beaucoup plus important même que dans le Benelux, si on regarde un petit peu, si on compare ces états. Et quelles sont les recommandations ou ce qui est prodigué dans la loi aujourd'hui autour de ces quatre lois. Je résumerai ça en quelques points, en quatre points. Le premier point, c'est inscrit dans la loi, l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. Égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. C'est un point important. Didier Sicard a rappelé que pour les soins palliatifs, il y avait un gap, une différence importante entre ce qui était inscrit dans la loi et l'accès réel. Le deuxième point, la participation du patient aux décisions qui concernent sa santé, incluant le droit du malade de refuser ou d'arrêter un traitement. C'est aujourd'hui dans la loi. Le refus de l'obstination déraisonnable qui s'impose aux médecins. C'est le troisième point qui ressort de l'ensemble du corpus législatif. Et le quatrième point qui existe dans la loi aujourd'hui, et qui existe depuis longtemps, et en particulier dans le code de déontologie médicale, c'est l'interdiction pour le soignant de provoquer la mort délibérément. Et je pense que ces quatre points sont un acquis important au niveau du droit et au niveau évidemment de la protection des patients. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que le droit est respecté? Est-ce que le droit est appliqué? Est-ce que le droit est connu? Et Didier Sicard a donné quelques éléments d'information, en particulier pour les soins palliatifs, mais également pour la formation des médecins Est-ce que aujourd'hui, dans la formation médicale, il y a une sensibilisation à ces questions autour de la fin de vie? Et je pense que on aura peut-être l'occasion de revoir cet aspect, cette question, avec le débat que vous aurez, Claire Fourcade et Alain Claisse, juste après. Mais c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi faudrait-il une nouvelle loi si le droit actuel n'est pas appliqué? Je pense que, et nous pensons, que la préservation de l'autonomie d'un patient, est un droit. C'est un droit qui existe jusqu'à la fin de la vie et qui est rappelé dans les lois que j'ai résumées tout à l'heure. Revendiquer le droit à mourir doit être entendu. Et je pense que les témoignages que l'on peut avoir des soignants nous disent l'importance d'entendre et avoir le temps aussi d'avoir ce dialogue au moment de la fin de vie. Mais le droit à mourir doit être entendu, mais il engage l'autre également. Et je pense que c'est quelque chose qui pose finalement une question éthique autour de ce respect de la liberté de la personne, de le respect de la dignité de la personne malade, mais sans faire abstraction du respect de la liberté de l'autre, du soignant. Et je pense que l'affirmation d'une liberté ne doit pas séquestrer la liberté de l'autre. L'autre, le soignant en particulier, mais également le proche, qui est engagé dans sa finalité professionnelle et dans sa déontologie professionnelle. Alors j'ai évoqué très rapidement la question éthique autour de la fin de vie. J'ai encore un peu de temps peut-être. Et donc au titre du CCNE, que j'ai suivi pendant 10 ans, et j'ai présidé la section technique du CCNE pendant 6 ans, on a travaillé depuis sa création. Le CCNE a fêté hier notamment ses 40 ans d'existence, et depuis sa création, il a délivré de l'ordre de 7 avis autour de la fin de vie. Alors je ne vais pas vous décrire l'ensemble de ces avis, même si ça pourrait être tout à fait intéressant. Je pense que c'est un point important quand même de rappeler le rôle d'un comité national d'éthique, qui n'est pas de défendre une position, une opinion, mais de faire en sorte d'apporter, à travers sa composition, à travers ses échanges, à travers ses travaux, d'apporter du matériau de réflexion pour l'ensemble de la société, et en particulier aussi pour les autorités gouvernementales, sur des questions qui sont toujours complexes, qui sont toujours difficiles à instruire. Et l'objectif même du Comité national d'éthique, et peut-être qu'Alain Claisse pourra donner des éléments de précision autour de ça, suppose qu'il y ait une prise en compte avec rigueur de l'ensemble des opinions et d'avoir une délibération justement avant de produire des avis. Alors, un certain nombre d'avis, comme je l'ai dit, ont été publiés depuis 1991. Le premier avis est sorti en 1991. Je vous lis simplement un extrait de cet avis qui était de l'ordre d'une ou deux pages. L'acharnement thérapeutique déraisonnable poursuivi au-delà de tout espoir doit laisser place à l'apaisement des souffrances qui reste le devoir du médecin. Le CCNE, est-il écrit à ce moment-là, désapprouve qu'un texte législatif ou réglementaire légitime l'acte de donner la mort à un malade. C'était il y a un peu plus de 30 ans. Un peu plus tard, en janvier 2000, Didier Sicard l'a évoqué, il y a eu l'avis 63. Alors c'était un peu plus complexe, cet avis 63, mais tout à fait intéressant et toujours d'actualité. Faire face à la question euthanasique conduit à affirmer des valeurs et des principes touchant tant à la liberté des individus qu'aux exigences du respect de la vie individuelle et sociale. Et ces valeurs et ces principes méritent tous la plus grande considération. Mais de fait, ils entrent en conflit les uns avec les autres. Et l'illustration même de ce conflit, c'est le dissensus qu'il peut y avoir entre l'autonomie, la revendication de l'autonomie, qui est souvent exacerbé à notre époque, et ce besoin de solidarité. Ils entrent en conflit, ces valeurs et ces principes, et s'avèrent parfois contradictoires, générant ainsi un dilemme qui peut se révéler paralysant. Et pour le CCNE à l'époque, et on pourrait y revenir dans la discussion si on avait un peu de temps, il apparaît qu'une position fondée sur l'engagement et la solidarité est en mesure de faire droit aux justes convictions des uns et des autres. Et cette position d'engagement solidaire pourrait trouver une traduction juridique dans l'instauration d'une exception d'euthanasie. sans modifier la loi à l'époque. Alors cette position du CCNE avait fait débat à l'époque, mais on avait quand même noté dans cet avis la non-nécessité de faire évoluer la loi. Deux minutes, merci. Alors d'autres avis sont venus ultérieurement, bien entendu. Il y a eu en particulier après la conférence, ce que tu as dirigé, Didier, c'était la commission autour de la fin de vie, donc en 2012, qui a eu un rapport donné au président Mitterrand, Hollande. Oui. Il y a eu l'avis 121 du comité d'éthique qui ont repris un certain nombre de ses conclusions et qui réaffirmaient la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs, la nécessité de développer l'accès aux soins palliatifs à domicile, la nécessité d'associer pleinement la personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie. Et la sédation profonde qui, effectivement, est continue. Alors, il y a eu d'autres aspects qui ont été développés autour de la fin de vie dans le cadre des états généraux de la bioéthique en 2018. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais on était dans la même logique, c'est-à-dire d'insister beaucoup sur l'importance de développer les soins palliatifs sans recourir à une évolution de la loi. Et il y a eu l'avis 139 de septembre 2022. Alain Claisse peut-être reviendra sur ces éléments-là. Avec deux volets, le renforcement encore une fois des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs était affirmé. Il existe également, et c'était le deuxième volet qui a été médiatisé d'une façon importante, il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir, mais il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de cette législation si les mesures concernant les soins palliatifs ne sont pas prises en compte. Il y avait aussi une affirmation dans cet avis 139 de septembre 2022 de l'importance de ne pas être indifférent à ces questions-là. Alors personnellement, j'étais au comité d'éthique à l'époque et j'étais à l'initiative avec d'autres d'une position différente en disant en particulier que tant que le corpus législatif n'était pas appliqué et connu comme ça a été repris dans les premiers éléments de cette intervention, il n'était pas nécessaire de faire évoluer la loi. Il était important aussi de comprendre un petit peu ces situations exceptionnelles qui pourraient faire évoluer et justifier l'évolution de la loi. Et puis on s'est posé la question aussi dans cette position différente de dire mais quel pourrait être l'impact d'une loi sur l'aide active à mourir ou sur l'euthanasie, sur les personnes malades, sur les personnes en EHPAD, sur les personnes handicapées, sur l'ensemble de ces personnes fragilisées qui pourraient être encore plus fragilisées si dans le corpus législatif était ouvert la possibilité d'aide médicale à mourir. Et je pense que c'est une question importante que l'on a fait remonter aussi dans le cadre de cet avis 139, même si un certain nombre de constats qui étaient faits dans l'avis principal, si je puis dire, était partagé aussi par nous. Je crois que c'est important de voir aussi que l'ensemble de ces questions autour de la fin de vie permettent de poser des questions éthiques de façon plus générale autour de la liberté, autour de l'autonomie, autour du rôle finalement du soin, le soin, et je crois que Didier Sicard a bien montré que le soin, la médecine finalement, c'était le soin, c'était guérir, c'était d'essayer de tenter de guérir, mais c'est aussi le prendre soin, c'est aussi l'accompagnement. Et ça, c'est essentiel en particulier quand on est démuni pour faire évoluer l'état de santé en fin de vie. Et l'accompagnement est essentiel. Et je pense que le témoignage des professionnels de santé dans les soins palliatifs est tout à fait utile dans ce cadre-là.
Merci beaucoup, Pierre-Henri. Alors, on va donner la parole à Dominique, et ce faisant, à vous. À travers des questions que vous avez pu faire remonter.
Combien de temps? Parce que j'ai beaucoup de questions.
On va tabler sur 10 minutes.
Donc, beaucoup de questions de médecins. Alors, je remercie certains de faire l'effort d'écrire bien. Voilà. Et puis, il y a des questions qui sont plus un peu sur les soins palliatifs. Alors, peut-être que je vais les retenir pour... cas pour cas tout à l'heure après le débat peut-être intérêt. Donc Je vais les dire tout à la suite et vous prendrez celles que vous voulez. D'une part, il y a quand même des questions autour de l'exception d'euthanasie. Voilà. Pourquoi d'abord ça n'a pas été repris? Et qu'est-ce que ça signifie sur le plan législatif, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le retour à la clandestinité ou est-ce que c'est... Bon. Et pourquoi ce n'est pas une proposition qui a eu du succès? Ensuite, les questions, c'est autour... vous avez parlé du besoin d'accompagnement et du dialogue singulier, Didier Sicard, entre le médecin et le patient. Et certains demandent, est-ce que en fait, ça ne devrait pas être un dialogue entre le médecin, le patient et la famille? La place de la famille dans ce temps-là. Et une question aussi plus technique, mais à mon avis qui a beaucoup d'intérêt pour les soignants. Est-ce qu'une loi autorisant l'aide active à mourir imposera le changement du serment d'Hippocrate? Voilà. Qui dit qu'il ne provoquerait jamais délibérément la mort. Au-delà de la question, dit la personne, de l'objection de conscience qui serait sans doute retenue. Donc après, effectivement, ce sont plutôt des questions sur les soins palliatifs. Et après, il y a un long témoignage, je ne l'ai pas lu totalement, si vous demandez pardon, j'ai pas eu le temps, mais on aura aussi le temps de revenir sur toutes ces exemples particuliers au cours du débat entre nous après. Donc, l'exception d'euthanasie, le dialogue avec la famille et la question du serment d'Hippocrate. Je pense que c'est déjà trois questions. Et merci beaucoup de toutes ces questions. Et pardonnez-moi si je ne suis pas absolument fidèle.
Excellente question. Très brièvement, 2000 à 863, 40 membres de CCNE, j'étais président, 40 oui à cet avis. Et à cet avis, il y avait un évêque, il y avait l'ADMD avec le sénateur Caillavet. Au fond, il y avait la société dans son hétérogénéité, les religions, l'islam, et les 40 membres ont adopté cet avis. Quand cet avis est sorti, le tohu-bohu médiatique a été considérable parce qu'on a accusé le CCNE d'avoir ouvert la porte à l'euthanasie qui, à ce moment-là, apparaissait comme la situation diabolique. Et nous disions simplement qu'il y a des situations où il faut accepter que la médecine aide à mourir parce que la vie est devenue un cauchemar insupportable, quelles que soient les raisons. Et un juriste du comité, Michaud, grand juriste, avait dit qu'il faudrait inventer le concept d'exception à l'euthanasie, autrement dit, le médecin met fin à la vie à la demande du malade, lorsque sa famille, tout le monde est d'accord, mais l'euthanasie reste une interdiction. Mais le médecin dit... J'ai pratiqué une euthanasie à la demande du malade et je dis à la justice les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et la justice doit accepter le concept d'exception à l'euthanasie. C'est pas que ce n'est pas un homicide, mais c'est un homicide avec exception parce que la médecine considère qu'on lui fait confiance dans la mesure où on considère que la société considère qu'il n'y avait pas d'autre choix et que c'était un choix raisonnable pour aider cette personne. Et le droit a refusé le concept d'exception à l'euthanasie en disant, dans le droit, il n'y a pas d'exception. Et donc on s'est retrouvé au fond, 25 ans après, avec le sentiment qu'il fallait donc une loi qui l'ouvre, mais on peut se demander si l'ouverture n'est pas plus préjudiciable que, au fond, une ouverture relativement fermé, ce qui est un oxymore, mais une ouverture réduite, mais qui ne change pas le regard sur le fait qu'on ne donne pas la mort par indifférence pour se débarrasser. Avec une situation au Québec dont on me parlait hier aux 40 ans, où les sommes économisées par l'euthanasie dans l'État du Québec deviennent absolument considérables. Autrement dit, l'économie a intérêt à l'euthanasie, et dans une société où l'économie a fini par être dominante dans notre société, Je crois qu'il faut faire un petit peu attention à ce que cette banalisation ne soit pas une solution à notre indifférence, à notre disparition du manque des personnes. Donc voilà ce que c'est que le concept d'exception d'euthanasie. J'ai le sentiment que 23 ans après, cet avis me paraissait toujours, sinon tous les avis doivent être modifiés, mais tenir la route. Et étonnamment, il a à peu près disparu dans les oubliettes, et alors qu'il avait été l'objet, je ne pense pas qu'il y ait dans l'histoire du CCNE un article où toutes les chaînes de télévision du monde entier étaient là, enfin c'était vraiment la nouvelle. Et je suis frappé de voir que le lendemain de cette publication de cet avis, je suis passé en procès. Je me souviens à la Sorbonne, devant un ensemble, le corps médical, les juristes, disant « Vous avez ouvert la porte à l'euthanasie, c'est insupportable ». C'est très étrange, 23 ans après, de voir comment, au fond, cette situation a été oubliée et comment, peut-être, nous avons... c'est important, toujours, l'histoire, de penser que, au fond, on considère seul que le présent est important alors qu'il est fondé sur une histoire. Quand la question sur les soins palliatifs, ils ont quand même... Dieu sait si j'ai défendu les soins palliatifs et j'ai vraiment aidé à leur création. Mais aucun étudiant ne passe dans un service de soins palliatifs. Aucun cancérologue ne passe dans un service de soins palliatifs. Et les soins palliatifs, essentiellement, sont destinés aux 15-20 derniers jours. Et quand un malade en insuffisance cardiaque a 6 mois, 1 an de sa mort, une maladie neurodégénérative a 2 ans, 3 ans de sa mort, il aurait besoin des soins palliatifs. Eh bien, les soins palliatifs disent, mais oui, nous, on s'occupe au fond des dernières semaines de la mort. Et je trouve qu'à l'opposé des îles britanniques, le Royaume-Uni, où les soins palliatifs font partie de la médecine, qu'on soit curatif ou palliatif, ça fait partie de la même médecine. Or, la médecine française a transformé la médecine en curatif. Le palliatif ne les concerne pas. Et je trouve que cette césure absolue entre le curatif et le palliatif aboutit au fond à un abandon des malades. Combien j'ai vu de personnes en fin de vie abandonnées par la médecine en disant, écoutez, il n'y a pas de place soit palliatif, il n'y a plus rien à faire, retournez chez vous, on vous donne de la morphine, allez voir votre médecin, mais il n'y a pas ce sentiment du devoir. Et quand je disais à mes étudiants, je leur ai dit pendant 40 ans que le métier de médecin, ce n'est pas uniquement un métier de soignant, c'est un métier où, dans l'incapacité de soigner, on est présent. C'est quand il n'y a plus rien à faire que le médecin devient fondamental. Or, cette leçon, au fond, du médecin qui est celui qui, éventuellement, pourra aider à mourir si le malade lui demande, ça peut arriver, c'est rare, c'est rarissime, mais ça existe. Et pouvoir être accueillant à cette parole, mais en même temps, ne pas être un proposant, ne pas être quelqu'un qui considère que la fin de vie n'a pas d'importance, là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est un biais qui, à mon avis, dans les propositions de loi actuellement, ne sont pas suffisamment mises en avant, comme si un mourant, c'était un vivant à une phase particulière de son existence, mais qui n'était pas la phase ultime.
En un mot, le serment d'Hippocrate.
Le serment d'Hippocrate est une fiction. Alors, ne parlons pas des fictions, le serment d'Hippocrate... C'est une proposition que les étudiants proposent, mais comme une mantra à la fin de leur thèse. Mais je pense que 2500 ans après, non, je pense que pas que ce soit. On pourrait y faire un serment auquel il faudrait réfléchir. On ne peut pas s'accrocher au serment d'Hippocrate comme tu ne tueras point, parce que d'abord c'est une fiction, parce que la médecine tue. Elle tue quand elle considère que quand quelqu'un asphyxie complètement et que il est comme ça et qu'il n'y a aucune autre possibilité de le sauver, on va lui donner un peu de morphine pour que ça se calme et que la morphine pourra aider éventuellement à mourir. On ne va pas commencer à dire « Ah non, moi, je ne veux pas donner de morphine parce que je n'ai pas envie que le malade meure sous mes yeux. » Non, ça n'existe pas. Donc le serment d'Hippocrate, à mon avis, est une fiction qui n'a plus beaucoup de sens actuellement, qui en aucun cas ne doit être un obstacle. La vraie question, c'est simultanément tenir ce sentiment que celui qui meurt vous impose sa présence et comment, dans tous les sens du terme, on peut venir l'aider dans tous les sens du terme, mais sans que la loi vous donne le sentiment de vous débarrasser des contraintes quelconques.
Pierre-Henri, peut-être sur l'exception de l'euthanasie en particulier.
Non, je pense que Didier Sicard vient de rappeler effectivement l'avis 63 qui est essentiel. Je crois qu'il y a besoin, à mon avis aussi, dans la réflexion éthique, et en particulier je prendrai plus l'exemple de l'avis le plus récent du CCNE, l'avis 139, besoin d'avoir une réflexion éthique exigeante, c'est-à-dire d'avoir, quand on propose ou quand on laisse indiquer qu'il y a un chemin éthique vers l'évolution de la loi, mais d'envisager l'ensemble des conséquences qu'il y aurait dans la société française dans l'éventualité de cette nouvelle législation. Et je crois que ce point-là me semble pas complètement traité dans l'avis 139, et c'était pour moi une frustration. Et je crois que c'est important aussi de comprendre que c'est ça qui a aussi fait émettre de notre part un avis différent.
Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut vous applaudir.